Ce qu'il y a, je pense, d'assez intéressant, globalement parlant, en Europe, c'est que la mémoire, et notamment la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui logiquement est utilisée, est instrumentalisée pour flatter le nationalisme, pour flatter les passions. On le voit très bien en Asie, où lorsque le gouvernement de Pékin n'est pas très heureux du gouvernement japonais, eh bien, il rappelle fort opportunément les massacres de Nankin. On le voit bien également dans les relations un peu compliquées entre la Corée du Sud et le Japon, le problème des femmes de réconfort. Donc en règle générale, des contentieux mémoriels sont plutôt utilisés dans les relations internationales pour isoler, pour revendiquer, plutôt que pour unir. En France au contraire, en Allemagne au contraire, en Grande-Bretagne au contraire, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale a été mobilisé au service d'abord de la réconciliation franco-allemande, au service également de la construction européenne, au service enfin de la paix. De ce point de vue-là, on peut parler d'une réussite de la mémoire de la guerre telle que Bonn, puis Berlin et Paris l'ont gérée. Nous n'avons pas du tout ce schéma qui fonctionne dans le cas de la France et de l'Italie. Je dirais qu'on est plutôt dans une situation d'indifférence. Alors on peut, dans une certaine mesure, dire que des occasions ont été manquées. Je pense par exemple à la présidence de Pertini, qui était un grand partisan. Donc si vous voulez, des symboles forts auraient pu être mobilisés, ils ne l'ont pas été. Ils ne l'ont pas été parce que, dans la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, au fond, les relations franco-italiennes restent périphériques, que ce soit pour le pire ou pour le meilleur.
Est-ce que c'est dû aussi au fait qu'en Italie, l'évocation et l'épisode de la Seconde Guerre mondiale est lui aussi très contrasté? On le voit par exemple avec la célébration du 25 avril, qui ne fait pas l'unanimité parmi la classe politique, alors que le 8 mai 45 en France fait l'unanimité.
Il est évident que le problème de la gestion de la mémoire, de la guerre, mais également du fascisme, a été un problème en Italie. En d'autres termes, le pouvoir italien ne peut pas s'appuyer sur ce que nous appellerions, nous Français, sur un roman national, unanimiste et univoque, qui, par conséquent, pourrait offrir le pendant à un récit national français. Mais je me permets de rappeler qu'en France, les problèmes sont identiques. Les Italiens ont eu le fascisme, nous avons Vichy. Vous soulignez que la date du 25 avril n'a pas fait l'unanimité, et on se souvient que Silvio Berlusconi n'a pas honoré de sa présence, à une exception près, cette date. Mais je vous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing avait supprimé la commémoration du 8 mai qui a été rétablie et fériée par François Mitterrand. Donc ce qui me frappe, c'est que nous avons une certaine parenté entre la France et l'Italie. La France et l'Italie ont été, dans une certaine mesure, à la fois l'allié du Troisième Reich, l'Italie officiellement, la France parce que sa neutralité penche en faveur de Berlin beaucoup plus qu'en faveur de Londres. L'Italie a le souvenir encombrant du fascisme, nous avons le souvenir difficile de l'État français. L'Italie a eu en même temps une résistance qui a été présentée comme la matrice de la République. La 4e République se revendique explicitement de l'héritage résistant. Donc il y aurait, du point de vue, en tous les cas historique et peut-être même mémoriel, matière à construire quelque chose, du point de vue mémoriel, et du point de vue scientifique, beaucoup plus fort. Ce n'est malheureusement pas le cas, je le répète, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord et avant tout le nazisme et l'Allemagne, pour l'Europe.
De ce fait, est-ce que Français et Italiens se considèrent presque, avec le recul évidemment, du même côté, c'est-à-dire côté des victimes de l'Allemagne nazie?
Je pense qu'effectivement, nous avons beaucoup plus un paradigme victimaire qu'un paradigme héroïque. Nous sommes dans une époque qui célèbre beaucoup plus les victimes que les héros, ce qui n'était pas le cas dans les années 50, en France comme en Italie. On le voit d'ailleurs dans les films consacrés à la résistance italienne. Les grands films s'intéressent précisément à ces figures de héros, quelles que soient ces figures de héros. Donc de ce point de vue-là, incontestablement, il y a cette idée victimaire, mais je pense qu'elle n'est propre ni à l'Italie ni à la France. Je pense qu'elle est propre à l'Europe, voire au monde. On voit beaucoup plus, effectivement, les populations, voire les combattants, comme des victimes que comme des héros. Ce qui nous en dit long, sans doute, sur l'idéologie, l'ambiance, les représentations qui sont celles de nos contemporains.
C'est assez en contradiction avec les représentations qu'on a des autres conflits par le passé, de la mémoire qu'avaient nos ancêtres par rapport à d'autres conflits, ou bien est-ce que finalement on est dans la droite ligne des mémoires au fil des époques?
Non, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a quand même des mouvements de balancier. Vous avez des époques Mais je dirais que ce sont des époques où, au fond, les États sont sûrs d'eux-mêmes. Et dans ce cas-là, ils peuvent se reconnaître dans des figures héroïques. Et puis, vous avez des époques, comme celles que nous connaissons aujourd'hui. C'est une explication, qui vaut ce qu'elle vaut, qui sont marquées par le doute, qui sont marquées par la crise, et qui font sans doute que les populations ont une démarche beaucoup plus empathique à l'égard des victimes dans lesquelles elles peuvent se reconnaître. Mais ceci a été aussi le cas pour d'autres conflits. Il est clair, par exemple, que pour la guerre de 14-18, vous avez eu un modèle héroïque qui a célébré, par exemple, le sacrifice des héros de Verdun, et qui les a présentés comme des héros. Mais vous avez également le pendant, qui est que l'on va insister, par exemple, sur les mutinés, sur les fusillés, pour l'exemple, qui apparaissent précisément comme des victimes d'une machine de guerre qui broie l'individu. Donc les deux facettes, me semble-t-il, coexistent.
Pour revenir sur le roman national, en France, est-ce qu'on peut dire que le roman national a été écrit, en partie évidemment, par De Gaulle et le gaullisme, alors qu'en Italie, il a peut-être manqué justement une figure ou un courant politique assez fort pour écrire ce roman national ?
Oui et non, je dirais que, incontestablement, le roman national a été écrit ou a tenté d'être écrit par le général de Gaulle, qui a présenté le peuple français comme unanimement résistant, mais le général de Gaulle partageait à certains égards la vision des communistes. Bien entendu, c'est un petit peu comme les contreforts d'une cathédrale. Ils ne sont pas dans le même camp, mais l'ensemble contribue à la solidité de l'édifice, puisque les communistes considèrent que le peuple est bon, que le peuple ne veut pas trahir, que le régime de Vichy est un état fantoche, un état marionnette, qui ne traduit pas la réalité de la France. Mais en Italie, incontestablement, vous avez eu, je crois, car je connais moins bien la situation italienne, une vision aussi héroïque qui a été portée par les communistes. C'est peut-être aussi parce qu'elle a été portée par les communistes qu'elle a eu une certaine capacité à s'imposer en raison de la force du Parti communiste en Italie, mais qu'elle a pu aussi, dans une certaine mesure, être combattue parce que c'était les communistes, parce que c'était la guerre froide, parce que c'était donc cette période d'opposition.